On s'en va rejoindre au bout du fil pour parler de lutte. Bertrand Hébert. Salut Bertrand, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien.
Bertrand, une biographie sur le géant ferré écrite avec Pat Laprade. D'abord, il y a eu un documentaire télé il y a 2 ans déjà. Est-ce que c'est ce qui vous a donné le goût de faire une biographie?
Bien, clairement, nous, on avait déjà eu cette idée-là après « À la semaine prochaine, si Dieu le veut », qui était le premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. On voulait, c'est un sujet fascinant, le géant ferré, il y a tellement de légendes autour de ça. Donc, on avait déjà fait des propositions, mais on était encore quand même dans une époque plus difficile de faire parler de lutte. Et c'est clairement le documentaire là, qui a ouvert toutes les portes. Pat a participé de près à tout ça. Donc, à partir de là, on avait des accès à plein de nouveaux contacts. Puis après ça, notre éditeur à Toronto a foncé. Puis après ça, on était très chanceux. On a été capable d'avoir Urtubise qui embarque dans le projet. Et donc, on est très fiers de voir le géant ferré, la 8e merveille du monde, disponible maintenant. Là. Presque 2 mois plus tard que prévu, oui, malheureusement, oui. Mais c'est toujours mieux maintenant de le voir sur des tablettes que dans des boîtes, dans les entrepôts.
C'est une grosse brique, cette biographie-là. C'est quand même de plus en plus rare qu'on sorte des livres assez imposants comme celui-là. Est-ce que c'est un privilège quand on nous fait confiance pour nous laisser aller là-dedans?
Effectivement, je vous dirais que c'est toujours un peu la crainte quand on écrit un livre. On écrit, puis là on dit on va dépasser les cadres de ce qu'on avait prévu à la base. Là, on se fait dire sortez tout ce que vous pouvez, on verra rendu là. L'important, c'est d'avoir le meilleur livre possible. Puis quand au final, les décisions sont prises d'y aller en anglais avec une couverture cartonnée, puis en français, d'y aller vraiment avec une édition complète, totale, même. Il y a une photo de plus en français, puis tout ce qui est plus local au Québec, Libérien ou Symphorien, qui sont des émissions que le géant a participé au Québec, on y va plus en détail qu'on y va dans la version anglaise sur les mêmes sujets. Là. Donc, qu'on ait eu cette confiance-là jusqu'au bout, oui, c'est clairement un privilège. Là. Puis pour pouvoir vraiment raconter la vie de ce personnage-là, puis de cette personne-là, en un seul vrai bloc.
Quand on fait une bio, souvent, on va relire toutes les entrevues que la personne de qui on veut parler a données, mais André était assez réservé sur sa vie. Est-ce que ça complique les choses?
Ça complique les choses dans le sens que lui-même, si on compare avec Maurice Vachon, là, qui était notre projet juste avant celui-là en termes de recherche sur un personnage, il n'a pas laissé autant d'entrevues, clairement, que Maurice. Il en a quand même laissé. Donc là-dessus, là, je pense une entrevue au lundi, une entrevue dans certains journaux ici locaux, une entrevue avec Pierre Nadeau. Il y a quand même du matériel qui n'est pas juste relié directement au monde de la lutte, mais qui a été fait par des journalistes. Donc ça, c'est intéressant. On va quand même chercher beaucoup d'informations là. Mais en même temps, il y avait quand même beaucoup de ses contemporains qui sont toujours des nôtres. Puis qui était heureux de participer au livre, là, de Stan Hansen à Mean Gene jusqu'à Gino Brito, puis Ricky Martel, puis Raymond Rougeau, des gens qui l'ont connu, puis qui nous amenaient d'autres facettes de sa vie. C'est sans compter là, tous ceux qui sont même partis, qui ont laissé des quantités d'entrevues, de journaux, de biographies, etc. Il y a presque 10 pages de référence avec ce livre-là à la toute fin pour vous montrer partout où on est allé pour fouiner puis se renseigner puis découvrir vraiment la vraie histoire d'André Roussimoff, celui qui personnifiait le géant ferré.
Comment réagit la famille à l'idée de ce projet-là? Parce que je sais qu'André était pas très près de sa fille pendant longtemps. Est-ce que les proches étaient heureux de ce projet-là?
Écoutez, son neveu Boris habite à Montréal et on l'avait rencontré lors du lancement à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, à partir de là, on a toujours été en très, très bonne relation avec Boris. Il nous a introduit au fil des années au reste de la famille. Il était instrumental pour que Pat ait des accès pour pouvoir voir les gens de la famille en France. Donc, de ce côté-là, tout le monde était très ouvert à l'idée de nous parler. Là. Puis, comme André était une personne réservée, il était tout autant que sa famille face à sa carrière, surtout qu'à l'époque, c'était encore le kayfabe ou la loi du silence, ouais, qui était roi et maître dans ce milieu-là. Donc, eux ont tout à apprendre de sa vie dans le monde de la lutte. Donc, tout le monde était très, très participatif. Malheureusement, du côté de sa fille, sa priorité à elle, c'est de travailler dans les projets qui sont liés à la compagnie là, qui s'occupe gérer le nom et l'image du géant. Comme ce n'était pas un projet qui venait de cette compagnie-là, elle était froide un peu à l'idée de nous accorder une entrevue en profondeur, mais elle a elle-même laissé beaucoup d'entrevues, écrit une préface dans la bande dessinée à laquelle elle a participé. Donc, on avait quand même beaucoup de matériel là, pour pouvoir donner un bon portrait de la situation.
C'était quoi le lien du géant avec le Québec? Parce qu'évidemment, j'ai l'impression que c'est ici que tout a commencé.
Ben, en fait, c'est sa porte d'entrée en Amérique du Nord. C'est son introduction à l'Amérique du Nord après une carrière en Europe puis au Japon. Donc, c'est comme une espèce de transition. Donc, de toujours pouvoir parler sa langue. Et bon, on sait qu'au Québec, on a toujours aimé les lutteurs venant de la France. Donc, à partir de là, pour lui, c'était parfait comme introduction à l'Amérique du Nord pour ensuite tranquillement commencer à voyager de territoire en territoire. Donc, c'est ici qu'il va, avec le Don Leo Jonathan, avec les combats du siècle, se faire une réputation d'attraction. Puis à partir de là, quand il va commencer à se promener et à voyager, jusqu'à temps qu'il arrive à New York pour travailler avec Vince McMahon Senior, Montréal reste l'espèce de plaque tournante là, que tout arrive. Là. Puis ici, ben, comme on l'a dit, on l'a adopté. Là. Le géant ferré, c'est dans la petite poignée de gens qui ne sont pas des Québécois, mais qu'on considère comme des Québécois dans le monde de la lutte.
Maintenant, il y a beaucoup de lutteurs qui veulent se diriger dans le cinéma. J'ai l'impression que le géant ferré, c'est un des premiers, non?
En fait, oui. C'est clairement, et Ricky Martel le mentionnait, pour eux, de voir le géant ferré dans l'homme de 6 millions, c'était quelque chose parce que c'était... Il n'y avait aucun lutteur qui était invité à Johnny Carson, qui était invité à David Letterman. Mais le géant ferré était invité. Ça va être ça avec la montée d'Hulk Hogan avant que ces choses-là deviennent un peu plus fréquentes. Donc, oui, puis après ça, le film Princesse Bouton d'Or, là, ou Princess Bride en anglais, demeure un rôle fascinant parce que c'est pratiquement son propre rôle adapté à un conte de fées qu'André joue là-dedans. Et pour la première fois, on lui donne aussi beaucoup de lignes. Il y a vraiment du texte à apprendre et du texte à livrer. Et malgré les doutes au départ de l'équipe de production du film, André va livrer toutes ses lignes parfaitement, juste de la manière dont on le voulait. Je crois qu'aujourd'hui, André aurait eu une beaucoup plus belle carrière dans ce monde-là, avec son sens de l'humour et son timing. Qu'il a pu avoir la chance d'avoir à l'époque où il faisait des apparitions par-ci par-là, mais où souvent il n'y avait seulement pas une seule ligne de texte à dire. Mais pour être un bon lutteur, il faut être un bon acteur jusqu'à un certain point, donc il y avait juste un pas à franchir de ce côté-là.
André souffrait d'acromégalie. C'est quelque chose qu'il a habité toute sa vie, évidemment. Il savait qu'il allait avoir une fin plus rapide que la moyenne, en fait. Est-ce qu'il a vécu en fonction de ça?
Ben oui. Dès qu'il va apprendre ça, il y a une espèce de décision qui est prise de ne pas chercher à avoir un traitement qui aurait impliqué d'enlever cette tumeur-là qui pèse sur l'hypophyse au cerveau pour pouvoir tenter de limiter la sécrétion d'hormones de croissance dans l'avenir. C'est quelque chose qui va revenir périodiquement dans sa vie. Là. Les extrémités, particulièrement les pieds, les mains, la tête, l'espace entre les dents là, qu'on voit augmenter au fil des années sur les différentes photos, ce sont tous des symptômes évidents là, de l'acromégalie. Et ça, tout ça va lui causer énormément de douleur parce que, bon, à un moment donné, notre corps arrête de grandir, mais les os vont épaissir, ça va causer des douleurs, et là, ça va conduire à une opération au dos qui aura elle-même ses propres conséquences. Et par conséquent, il décide de ne jamais perdre de temps dans la vie puis de jamais... se priver de rien. Par contre, ça a toujours un prix parce que, bien entendu, en mangeant et en buvant en quantité comme ça, ben ça c'est rien pour aider les problèmes physiques à la base. Donc, de là, tout ça va conduire à une lente détérioration puis dégradation qui va conduire à son décès prématuré à l'âge de 46 ans.
Les fans de lutte se souviennent qu'à la fin, on le voyait dans le coin des Bushwhackers, dans une rivalité avec les Natural Disasters. Il était en béquille. Donc, il s'accrochait à la lutte malgré la santé qui s'en allait.
Oui. Bien, ça, c'était à la base. Il y avait eu une espèce d'histoire où, après avoir redevenu un favori de la foule, on avait tenté de préparer le terrain pour une rivalité André contre Earthquake. Ouais. Et malheureusement, physiquement, après une autre opération au genou, il n'était pas prêt à revenir. Et là, il va être dans le coin de plusieurs lutteurs, dont les Bushwalkers, dans cette rivalité-là. Mais ça va être dans ses dernières apparitions, effectivement. Ce qui est un peu triste, là, parce qu'on le voit en béquille. On s'aperçoit bien que quand on regarde après ça les derniers matchs au Japon ou au Mexique, là, dans les 3 contre 3, c'est par moments très triste à voir. Et ça rend l'histoire un peu tragique parce que tout ce qui l'a rendu populaire, connu, riche, va finalement venir lui retirer tout ça en fin de vie.
Évidemment, tout le monde se souvient du match avec Hulk Hogan à WrestleMania 3. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie du géant Ferry, ce combat-là?
Ben, écoutez, ça lui a permis de faire énormément d'argent, ouais, même ça, comparé sûr. À tout l'argent qu'il avait fait comme un des lutteurs les mieux payés au monde dans les années précédentes. Là, on parle en millions de dollars à partir de cette période-là. La WWE va être bâtie sur cette rivalité-là. SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble, tout ça est bâti sur le dos de Hulk Hogan contre le géant Ferry.
Ouais.
Et ultimement, il demeure la pierre angulaire de toute la mythologie de la WWF. Chaque émission de télé commence avec le petit Then, Now and Forever. Et la première chose qu'on voit, c'est André Hogan. Ouais. Et je m'attends à ce que ça soit comme ça pour toujours. Là. Donc, à ce niveau-là, ça l'a totalement implanté à jamais comme un des plus grands de tous les temps.
C'était quoi son lien avec Hulk Hogan?
Ben, je pense qu'à la base, André... On nous a noté qu'André avait tout de suite vu le potentiel de Hogan. Et il va prendre pour lui de tester Hulk, de s'assurer qu'il n'y a pas juste les attributs physiques, mais qu'il y a les attributs mentaux pour soutenir le flambeau si jamais il devait y être passé. Puis là, au fil du temps, c'est un peu ce qui se présente de torsionnaire, si on veut, ou de quelqu'un qui est toujours en train de pousser, il va le prendre tranquillement sous son aile. C'est un peu la même chose qui arrive quand Hulk devient champion. C'est un peu ça qui se passe là également. C'est on passe un peu... André va être un peu son torsionnaire dans la préparation, tentant de lui faire croire qu'il n'a pas décidé encore s'il va perdre à WrestleMania. Alors que pour Vince McMahon et Pat Patterson, c'est quelque chose qui est réglé, là, ça fait longtemps. Mais jusqu'à la dernière seconde, André va lui faire croire tout ça. Pour lui faire bien comprendre qu'au final, c'est toujours lui le boss, là, quand il était son surnom. Donc, c'était son mentor, mais en même temps, il a pris sur lui de s'assurer que Hulk avait ce qu'il fallait pour reprendre le flambeau.
Est-ce qu'il a déjà résisté à des combats en voulant pas perdre ou en voulant pas vivre ce qu'il devait avoir dans le combat? Évidemment, la grandeur et la grosseur qu'il a, il pouvait le faire.
Oui, mais bon, ce qui semble être clair de ce que vous là, c'est que si André voulait pas faire quelque chose, ça durait jamais longtemps. C'est-à-dire, il s'arrangeait pour finir ça le plus vite possible et de façon expéditive. Sans jamais ne pas respecter le scénario, okay. Mais s'il y avait quelque chose qui faisait pas son affaire, ça c'était pas pour durer 15 minutes. Puis quand il y avait des messages à passer au bureau de lutte, c'était plutôt de présenter des mauvais combats. Donc, rester au sol durant 15 minutes dans une prise de tête pour que le monde crie chou puis soit pas content. C'est le genre de message qu'André aimait passer au promoteur qui le faisait venir une fois par année puis qui essayait de l'avoir le samedi après-midi, le samedi soir, puis le dimanche après-midi, puis de le faire lutter deux fois à chaque gala, donc 6 fois en 3 jours, pour la même paye que s'il aurait fait 3 combats, c'est sûr que des fois, ça passait peut-être pas dans le livre à André. Mais c'est quelque chose qu'on a appris. André était très business, connaissait comment la lutte fonctionnait, puis il savait comment se présenter puis se vendre, lui, comme personnage dans ce monde-là.
Évidemment, il y a plein de mythes, d'histoires, de légendes entourant la bouffe, l'alcool et plein de choses autour d'André. Est-ce qu'il faut démêler tout ça?
Bien sûr, il a fallu démêler tout ça parce que c'est comme n'importe quel personnage légendaire, que ce soit Dracula ou Frankenstein, du livre original à tout ce que le monde a raconté et les diverses versions qui sont racontées au fil des années. Ben, c'est un peu la même chose avec le géant. Tout le monde veut s'y accrocher. Tout le monde veut dire « J'étais là le soir où Jean Ferry a bu 120 bières. » c'est pas tout le monde qui était nécessairement là. Tout le monde a entendu l'histoire.
Ouais.
C'est peut-être arrivé une demi-douzaine de fois où il a bu 120 bières avec les boys, mais c'est pas arrivé à toutes les soirs. C'est pas tout le monde qui était nécessairement là, mais comme toute histoire est bonne à raconter dans la lutte, et comme Ray Stevens disait, quand c'est bon à être raconté, une histoire, c'est bon à être coloré. Dans le cas d'André, on a souvent eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Est-ce qu'une histoire que tu croyais pas puis que c'est avéré vrai, finalement?
Ça, c'est une bonne question. Ben, moi, j'avais lu quand j'étais jeune là, des histoires qu'André était allé en Irak, puis bon, j'ai entendu des histoires à propos de Saddam Hussein, puis qui était là à cette époque-là. Puis effectivement, après recherche, après avoir parlé avec Adnan El Kassi, qui était le lutteur qui avait lutté avec lui là-bas, que les gens qui ont connu un peu là, dans les années 90 sous le nom de Général Annam avec Sergeant Slaughter. Oui. Bien, effectivement, André a lutté en Irak dans ces années-là et a bel et bien rencontré Saddam Hussein. Donc ça, c'est quand même un peu drôle dans tout ça. Sinon, ben, tu sais, comme certains disent, il y avait le coffre pour boire 100 bières s'il voulait en boire 100 bières. Mais en même temps, il se levait pour aller aux toilettes durant cette 100 bières-là. Là, je veux dire, il n'était pas surhumain à ce point-là. Mais en même temps, s'il était au range, il buvait peut-être pas de bière, mais il buvait plus de vin. Puis au lieu de commander tout le menu, ça y arrivait au range de déjeuner avec des fruits et du yogourt. Là. Hein? Fait que c'est pas tout à fait la même chose qu'on s'imagine. Mais s'il était sur le plateau de l'homme de 6 millions, il demandait 12 œufs pour déjeuner.
Attends.
Parce que c'était bon pour le spectacle, puis encore à ce jour, les gens qui étaient là, quand ils l'ont vu manger une douzaine d'œufs pour déjeuner, ils en parlent encore en 2020.
Donc,
c'est un peu ça, là. André était toujours on.
Ouais, c'est ça. Donc, il y avait un côté spectacle, même après le gala, même quand les lumières étaient éteintes, quand il était entouré de ses amis, il y avait un côté spectacle qui était là, là.
Tout le temps, tout le temps. Autant, mettons, aujourd'hui, les lutteurs sont toujours en mode spectacle sur leurs réseaux sociaux pour promouvoir les spectacles, ben André, la minute qu'il était en dehors de sa chambre, il devenait André le Giant, puis il était là pour promouvoir son personnage, puis s'assurer que tout le monde avait envie de venir le voir lutter, puis voulait savoir il était qui. Donc, ça faisait un peu partie de son modus operandi, comme on dit.
Vous avez une belle couverture médiatique depuis la sortie du livre. Est-ce que c'est une belle fierté, ça?
Ben oui, là en français, cette semaine, là, ça a été encore une fois là, une tornade, et bon, on en est très heureux, très fiers. Surtout qu'après, en anglais, là, on a eu des critiques qui nous rendent très humbles parce qu'on travaille tellement fort sur les derniers milles d'un livre que parfois on le sait plus. Là. Ouais. Là, on travaillait l'anglais et le français en alternance pour terminer. Fait qu'à un moment donné, tu vois plus l'arbre dans la forêt, tu ne sais plus où ce que t'en es rendu, jusqu'à quel point t'es dans la cible ou pas. Mais là, tout le monde semble unanime qu'on a fait un excellent travail, puis on a beaucoup de reconnaissance, puis ça, c'est toujours une grosse, grosse partie de notre salaire dans tout ça, là, d'être que le travail soit reconnu puis apprécié.
Ce sera quoi votre prochain projet? Est-ce qu'il y a une autre biographie? Il y a eu Mad Dog Vachon, il y a eu l'histoire de la lutte au Québec, il y a eu le géant. Est-ce qu'il y aurait un autre projet de biographie à l'horizon?
Écoutez, chaque projet conduit au prochain, donc on est toujours là-dessus. On se dit que André va nous amener au prochain. Quand on termine, on est toujours un peu en mode j'ai besoin d'un break.
Oui.
Mais c'est sûr qu'il y a des personnages qui ont eu des destins tragiques ici, qui ont été très populaires. Pensons à Dino Bravo, qui sont toujours des choses sur notre liste qu'on aimerait un jour pouvoir réaliser.
Et Dino Bravo qui a eu un documentaire à Crave cette année.
Oui, exact.
Donc, il y a eu un buzz autour de cet épisode-là en plus, donc il pourrait y avoir intérêt pour une bio de Dino Bravo.
Effectivement, on espère du moins. Là, Dino, c'est pas le même personnage que le géant en termes de lutte, mais en termes du monde de la partie true crime, si on veut, si on utilise l'expression anglaise, de son histoire, il y a un intérêt totalement différent, puis c'est quelque chose qu'on aimerait investiguer puis pouvoir aller plus loin.
Bertrand, j'invite les gens à se procurer le livre Le géant ferré, la huitième merveille du monde chez Urtubise. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ben merci beaucoup à vous, puis comme on dit, il est disponible partout, et sinon, ben demandez-le. Ils vont vous en trouver une copie.
Un grand merci.
Merci. Salut.